sur CQFD, Natacha Triou.
Le mois d'octobre a commencé et avec lui la campagne Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein continue. C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes et le plus mortel. Mais s'il est détecté à un stade précoce, 9 patientes sur 10 guérissent. On ne le répétera jamais assez, le dépistage, c'est le nerf de la guerre. Et c'est l'objectif d'Octobre Rose, sensibiliser et collecter des fonds pour la recherche. Car aujourd'hui, une femme sur 5 rechute encore du cancer du sein. Quelles différentes formes peut-il prendre? Comment l'étudie-t-on et comment le soigne-t-on? On part à l'assaut des récidives. Cancer du sein, la piste rose. Bonjour Delphine Loira.
Bonjour.
Vous êtes médecin spécialiste en oncologie à l'Institut Curie, le premier centre européen de prise en charge du cancer du sein. Vous travaillez avec des patientes et vous êtes spécialisée dans les essais cliniques. Avec nous également en duplex de Dijon, Carmen Garrido. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche de classe exceptionnelle. Vous êtes à la tête d'une équipe multidisciplinaire du centre INSERM Lipides Nutrition Cancer à Dijon et au centre Georges-François Leclerc. Et vous êtes la lauréate du Grand Prix Ruban Rose 2021. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. En complément d'écoute, vous pouvez également nous suivre sur notre fil Twitter @sciencecqfd. Mais avant d'entamer cette émission, c'est aujourd'hui que commence la folle semaine des prix Nobel 2022. On en parle avec vous, Antoine Beauchamp, bonjour.
Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et on commence cette semaine des prix Nobel avec le prix Nobel de physiologie et médecine remis ce jour à...
Roulement de tambour, Svante Paabo, le biologiste suédois, reçoit ce prix pour le séquençage complet du génome de l'homme de Néandertal et pour sa contribution majeure à la fondation de la paléogénomique. Outre ses travaux fondateurs, Svante Paabo a aussi participé à l'une des découvertes majeures de ces 20 dernières années en paléogénétique, celle en 2010 de l'homme de Denisova, une espèce d'hominidée éteinte, identifié grâce à la seule étude d'ADN fossile contenue dans un fragment de phalange découvert dans une grotte de Sibérie. Alors que peut nous apprendre la paléogénétique sur les métissages interspécifiques anciens et sur la biologie actuelle d'Homo sapiens? Des explications avec Evelyne Heyer, qui est professeure d'anthropologie génétique au Muséum d'Histoire Naturelle et qui est spécialiste d'évolution génétique.
C'est le père de la discipline de la paléogénomique humaine. C'est le premier à avoir réussi à lire l'ADN de Néandertal qui est disparu et de son cousin, l'homme de Denisova. Et à partir de ces travaux, d'ailleurs, ça a permis de montrer que les sapiens, notre espèce, se sont croisés avec les Néandertaliens et qu'on a tous une partie de notre génome qui vient de Néandertal, environ 2%. Enfin, les populations à l'extérieur de l'Afrique. Ça nous a éclairé parce que ça a permis de montrer qu'il y avait toujours eu des mélanges dans le passé entre les différentes espèces de la lignée humaine, d'une part. Deuxièmement, ça permet de voir, dans certains cas, qu'il y a des bouts de génome qu'on a reçus de Néandertal qui peuvent être intéressants et qui nous ont permis de nous adapter dans le passé. Mais il y a aussi, tout simplement, de comparer l'ADN de Néandertal et de l'ADN humain, de Sapiens, pour voir qu'est-ce qui fait de nous des humains plutôt que des Néandertaliens. Il y a vraiment deux choses. Là, par exemple, l'équipe de Svante Paabo, dernièrement, est arrivée à regarder des gènes néandertaliens, en quoi ils font des cerveaux différents des gènes humains, premièrement, donc de comprendre d'où vient notre cerveau. Et puis aussi, en utilisant ces outils-là, on peut retracer les adaptations qu'il y a eu dans notre passé. Et donc, notamment, de voir quels sont les bouts de génome qui nous ont permis dans le passé de survivre, de traverser des épidémies, de s'être adapté à des différents environnements. Donc qu'est-ce qui fait que notre espèce a tant de succès évolutif en ce moment?
Merci Antoine Beauchamp pour cet éclairage. On vous retrouve demain pour l'annonce du prix Nobel de physique et tout à l'heure pour le reportage du jour.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Nous parlons donc tout au long de cette heure du cancer du sein et d'Octobre Rose pour sensibiliser au dépistage. Les dépistages précoces, ce sont les clés de ce combat. Écoutons comment nous parlions de cette pathologie en 1945.
Ceux qui ont pu suivre l'évolution de la lutte anticancéreuse
Depuis qu'elle fut instituée en France d'une façon méthodique et rationnelle en 1921, par Paul Strauss, alors ministre de l'Hygiène, et par le professeur Bergonnier de Bordeaux, se sont rendus compte de l'importance que revêt le dépistage précoce du cancer. Reconnus à leur début, bien des tumeurs malignes sont susceptibles de guérir définitivement par les méthodes thérapeutiques dont on dispose aujourd'hui. Aussi, en France comme à l'étranger, dans les pays d'Europe comme aux États-Unis, les instituts spécialisés, institués en vue d'étudier et de traiter le cancer, ont-ils, à juste titre, concentré une partie de leurs efforts à instruire et à éduquer le public sur les possibilités de guérison du cancer traité à temps et sur les nécessités de dépister les tumeurs le plus près possible de leur apparition.
La nécessité du dépistage en 1945. Une réaction à cette archive, Carmen Garrido?
L'importance continue à être pareille, hein. C'est essentiel de pister précocement. J'avais des chiffres qui disaient qu'on avançait beaucoup, vraiment, qu'avec cette dépistage de mammographie qu'on fait maintenant, il y a 80% ou même plus, je crois, qu'ils me confirment les médecins de Curie, qui sont dépistés déjà précocement et donc qui sont, la prise en charge est beaucoup plus facile et mieux.
80%,
donc on avance de ce côté-là.
C'est affirmé. C'est à peu près de cet ordre-là. Alors, en termes de dépistage organisé, on atteint un plateau en nombre de femmes qui se font dépister donc tous les ans. Je vous rappelle, le dépistage est organisé en France depuis plusieurs années, à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, et tous les deux ans avec un envoi d'un courrier incitatif pour faire une mammographie. Après, on voit ce dépistage plafonner en nombre de patientes qui se font dépister, notamment parce que beaucoup de patientes ne passent pas par ce dépistage organisé. C'est souvent leur gynécologue qui l'organise, et puis parfois il est adapté à leur risque. Mais en effet, plus on va détecter tôt une tumeur, plus ça sera facile de la traiter et plus le pronostic est bon. Plus c'est petit, moins c'est grave, on va dire.
Oui, mais ça, plus précisément, comment ça s'explique justement le dépistage précoce si important? C'est vraiment une question de taille et de...
Alors c'est une question de taille et c'est une question de dépister la tumeur avant que les cellules tumorales aient eu la capacité de dépasser les filtres naturels de l'organisme. D'abord les ganglions, on retrouve parfois des cellules tumorales dans les ganglions, dans le creux de l'aisselle, et là c'est déjà un facteur prédictif de rechute. Et puis si on laisse traîner les choses trop longtemps, le risque c'est que les cellules tumorales passent au-delà des ganglions, vont ailleurs dans l'organisme et créent plus tard des métastases. Et hélas, on diagnostique encore des cancers du sein au stade métastatique, c'est-à-dire que la maladie est déjà allée en dehors du sein et des ganglions. Et
on peut rappeler en effet que le dépistage est gratuit pour les femmes, pris en charge par la sécurité à 100%, pour les femmes à partir de 50 ans.
50 ans, tous les deux ans, donc une mammographie avec double lecture. Il y a des choses qui se mettent en place à l'heure actuelle avec des programmes pour essayer d'évaluer si on peut un peu personnaliser le dépistage en prenant notamment les risques familiaux et personnels. On ne va pas organiser le dépistage exactement pareil pour une patiente qui n'a aucun antécédent familial de cancer du sein par rapport à une patiente qui aura sa mère, ses sœurs qui auront été touchées de façon très précoce dans leur vie plus jeune avant 50 ans.
Alors comment se passe un dépistage pour celles qui ne sont pas du tout familiarisées avec cet outil? Et puis d'ailleurs, quels sont nos outils également?
Alors, le premier outil, c'est nous. On peut déjà faire l'autopalpation, c'est une recommandation. On a la chance que le sein est un organe presque extérieur, palpable. On peut pas palper son foie, ses poumons, mais palper ses seins, c'est assez simple. Donc il y a des campagnes justement d'autopalpation. La première chose, le premier sens, mais comme un médecin, c'est la vue, de regarder si on a un changement d'aspect du sein, une coloration du sein, une boule qui apparaît, et puis la palpation pour voir si on trouve un nodule qui apparaît. Les femmes en général connaissent assez bien leur corps.
C'est la première étape, la palpation.
La palpation, puis après, donc participer au dépistage organisé à partir de 50 ans, quand on nous incite à y aller. Donc ça se passe avec une mammographie, avec deux incidences. Et puis, en cas d'anomalie, des examens complémentaires, notamment échographie, si besoin, d'autres analyses. Et puis des biopsies, le diagnostic se fait très souvent par une biopsie.
Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, dépistage pris à 100%, remboursé par la Sécurité sociale. Malgré ça, une femme sur deux ne le fait pas dans ce cadre de dépistage organisé. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Alors, on sait donc qu'il y a des patientes qui échappent à ce dépistage organisé parce qu'elles passent par un autre type de dépistage. Hein, les gynécologues, du fait de leur histoire familiale, par exemple, vont décider de commencer par des mammographies plus tôt ou de façon plus régulière. Et donc là, c'est pas le dépistage organisé, mais c'est ce qu'on appelle un dépistage individuel. Et puis, hélas, il y a quand même des patientes qui pensent que ça peut pas leur arriver. Et également, il y a quand même une entité qu'on connaît assez bien en clinique, c'est des patientes qui ont tellement peur du diagnostic qu'ils préfèrent ne pas aller au dépistage. Et c'est souvent des patientes qui attendent un certain temps avant de consulter. Et puis quand la tumeur est d'une taille trop importante, qui crée des douleurs ou des anomalies cutanées, viennent nous voir et elles connaissent leur diagnostic, mais elles avaient tellement peur de la prise en charge qu'elles ne viennent pas nous voir.
La malheureuse stratégie de l'autruche. On peut annoncer quand même une bonne nouvelle. Le taux de mortalité par cancer du sein est en constante diminution depuis 1990. Carmen Garrido, comment s'explique cette amélioration ?
Pour les nouvelles thérapies, d'abord les dépistages, comme vient de dire ma collègue, les dépistages précoces font toute la différence. Et puis les nouvelles thérapies, qu'on parlera plus tard, il y a des prises en charge beaucoup plus, des médecines beaucoup plus de précision et une médecine beaucoup plus personnalisée, ça change tout.
Delphine Loira, sur cette amélioration justement.
Alors, en effet, l'amélioration, alors dans les années 40, quand on voit l'archive, c'était des chirurgies très invasives, on enlevait énormément de tissus, éventuellement on faisait de la radiothérapie, parfois de la chimiothérapie pour toutes, enfin dans les années un peu plus tard, mais finalement on s'apercevait qu'il y a probablement des patientes qui, avec un traitement qui nécessitait pas forcément quelque chose de très invasif, ne récidivait pas, et d'autres récidivaient. Donc à l'heure actuelle, on a des stratégies qu'on appelle d'escalade thérapeutique pour les patientes à très haut risque, et puis on a aussi des stratégies de désescalade, c'est-à-dire que non, on ne fait pas de la chimiothérapie pour toutes les patientes, et notamment depuis maintenant plusieurs années, pour les cancers du sein localisés, dans certains cas, on utilise des analyses moléculaires de la tumeur, et ces analyses nous permettent de dire si oui ou non on a intérêt à faire de la chimiothérapie, et ça permet d'éviter de faire de la chimiothérapie à un grand nombre et on réduit le nombre de chimiothérapies faites.
Alors vous, Carmen Garrido, l'objectif de votre travail de recherche, c'est d'obtenir un dépistage encore plus rapide du cancer du sein et beaucoup plus simple grâce à une simple prise de sang. Vous avez d'ailleurs reçu pour vos travaux le prix Ruban Rose Avenir 2017 et le Grand Prix Ruban Rose 2021. Un dépistage précoce par simple prise de sang plutôt que tout un tas d'examens rayonnisants, comment cela fonctionnerait ?
Alors, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans l'équipe et après, Alors, mon équipe s'intéresse à un ensemble de protéines qu'on les appelle protéines de stress. Alors, ces protéines, normalement, ne sont pas dans la cellule, à moins que cette cellule est stressée. Et alors, elles s'accumulent dans les cellules et aident à cette cellule à survivre à cette condition défavorisante. Alors, j'avais fait l'observation quand j'arrivais ici en France, il y a déjà 25 ans, que les cellules cancéreuses avaient plein de cette protéine de stress. Et comme si c'était stressé permanentement, ça nécessitait d'un stress externe ou rien, il savait beaucoup. Et il y avait une bonne corrélation entre le contenu de ces protéines et la résistance, pas seulement à la chimiothérapie, mais cette protéine de stress aussi faisait comme un signal qui envoyait la cellule cancéreuse pour éviter la clairance immunitaire, pour éviter que le système immunitaire enlève la cellule cancéreuse. Donc depuis là, dans mon équipe, bien sûr, un des objectifs principaux est faire des inhibiteurs de ces protéines de stress pour pouvoir l'utiliser en association avec la chimiothérapie, mais aussi des immunothérapies. Mais c'est pas de ça que je vais parler là. C'est pas de thérapie, mais la recherche de mon équipe qui a reçu pas mal de prix dernièrement, dont le prix Ruban Rose deux fois, ça concerne le dépistage précoce du cancer. Que vous savez que maintenant, pour les diagnostics de cancer de sang, on a la mammographie ou les scanners pour les métastases, qui sont des techniques assez contraignantes pour les patients, chères pour la sécurité sociale, bon, bref. Donc nous, ce qu'on propose, on a vu, avec d'autres équipes bien sûr, que toutes les cellules sécrètent des petits vésicules, des toutes petites vésicules, on peut les visualiser comme des petites bulles, qui sont continuellement libérées par tout type de cellules. Bien sûr, cette petite bulle qu'on ne peut les voir que par les microscopes électroniques, des petites qu'elles sont, et ils sont dans la membrane, la composition de la membrane de la cellule qui s'assort, et les contenus aussi dépendent de la cellule qui la sécrète. Cette petite vésicule, on les trouve dans tous les liquides corporels. et sont sécrétés par des millions et des millions. Alors c'est très intéressant parce qu'une cellule cancéreuse, on ne peut pas la détecter, on n'a pas de technique pour détecter une seule cellule. Mais si on se met à détecter cette petite nanovésicule qui sont libérées par des milliers et des milliers, là on peut détecter la cellule cancéreuse. On se met très en amont dans la détection. Le kit de la question, c'est pouvoir différencier cette petite vésicule qui se libère d'une cellule normale, non cancéreuse, d'une cellule cancéreuse. Et c'est là qu'ils rentrent nos protéines de stress qui sont dans la membrane de cette petite vésicule. Donc, avec l'aide des physiciens de toute France, on a élaboré, on a breveté une technologie pour pouvoir capturer de la sang des patients cette nanovésicule, cette petite vésicule qui provient des cellules cancéreuses. On les appelle donc des vésicules tumorales. Et on a ouvert un essai clinique avec des patients de cancer de sang. Dans cette étude clinique, c'est une étude qu'on appelle pilote parce qu'il y avait peu de patients, juste 40, 20 métastatiques et 20 non métastatiques. Et on a suivi vraiment de près les patients pour voir si notre méthodologie marchait, si on pouvait vraiment détecter précocement les cancers.
Et donc, précocement de combien vous dites une détection très en amont, c'est-à-dire?
Alors, très en amont, il va falloir avoir plus d'études pour savoir exactement combien on se met en amont. Mais ce qu'on a vu dans cette étude clinique, c'était qu'effectivement, on pouvait très facilement détecter les patients qui étaient métastatiques. Le niveau de cette vésicule était énorme. Et puis, quand on comparait la détection d'une cellule tumorale circulante, des cellules tumorales circulantes par rapport à nos particules, à notre vésicule, on se mettait aussi très, très en amont. Maintenant, avec les patients, il va falloir être plus précis parce qu'on avait soin donc de faire des scanners et des analyses beaucoup plus suivies de ce qu'on a fait dans cette étude. Mais dans cette étude, on a pu voir qu'effectivement, on pouvait détecter les métastases dans les patients. Lorsqu'on voyait que ça augmentait, on disait ici des métastases et ça s'est confirmé par imagerie. Et encore plus intéressant, qu'on pourrait utiliser cette vésicule comme des marqueurs de réponse au traitement. Si les patients répondaient au traitement, le numéro de vésicules diminuait énormément. S'ils ne répondaient pas, augmentait. Et ça, on l'a vu de façon très précise et très sensible, parce qu'on prenait un échantillon après chaque cycle de traitement. Et effectivement, on était face à un marqueur qui était très, très intéressant. Donc maintenant, on va continuer. On a ouvert un essai clinique, cette fois-ci, avec des cancers de sang triple négatif. C'est un cancer de sang qui correspond juste à 15% de patients avec un cancer de sang. Mais c'est un cancer de sang très, très méchant, qui métastatise beaucoup, qui concerne beaucoup de femmes qui sont très jeunes et qu'il n'y a pas de thérapie ciblée validée. Ça veut dire qu'on traite un peu à l'aveugle. Sans pouvoir avoir un marqueur qui dit, cette femme est en train de répondre à la chimiothérapie, on peut continuer, celle-là ne répond pas, on ne s'acharne pas. On arrête et on essaie d'utiliser une autre chose. Donc on a ouvert cette étude, donc on va maintenant valider si on a face à un biomarqueur vraiment de réponse au traitement. Et bien sûr, on est en train d'analyser cette vésicule pour trouver d'autres biomarqueurs, pour savoir plus de choses. Est-ce qu'on peut trouver ici des marqueurs pour savoir? Parce qu'une chose, c'est une bonne chose pouvoir dire, il y a un cancer, on peut le détecter précocement. Mais encore mieux, si on peut dire, on peut adapter la prise en charge aussi de façon précoce. Donc, on travaille avec beaucoup de gens, des physiciens, beaucoup d'autres laboratoires en France pour voir combien de biomarqueurs on peut mettre là-dedans. L'idée, c'est faire des petites puces, qu'on est en train de nous faire, où jusqu'à 15 biomarqueurs pourront être détectés simultanément juste avec un millilitre de sang de patient. Et donc, pouvoir faire comme ça. Alors, c'est très intéressant, je crois.
Allez, l'idée, c'est donc vraiment maintenant de pousser le projet plus loin et d'identifier des biomarqueurs vésiculaires spécifiques de tel ou tel cancer.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
16h19 sur France Culture, nous parlons du cancer du sein avec Carmen Garrido et avec Delphine Loira. Alors, on connaît le cancer du sein depuis très longtemps. La première mention connue remonte à un papyrus égyptien qui date de 1600 avant notre ère, avec 8 descriptions de tumeurs au sein. Le mot cancer apparaît sous la plume d'Hippocrate. Alors, Delphine Loira, comment aujourd'hui, que sait-on de cette pathologie et quelles différentes formes un cancer du sein peut-il prendre? Quelles sont les caractéristiques moléculaires associées?
Alors d'abord, l'origine du cancer du sein, c'est souvent la première question de nos patientes en nous disant « j'ai une vie saine, je ne comprends pas ». En effet, la plupart des cancers du sein, finalement, on ne va pas pouvoir identifier un facteur de risque
particulier, hein, c'est pas comme le cancer du poumon avec le tabac. Et c'est finalement des anomalies génétiques qui se créent dans les cellules qui constituent la glande mammaire, qui vont pas être bien réparées et des cellules vont acquérir des phénomènes pour être une super cellule. Alors ça sera un super héros plutôt maléfique. Et voilà. Et donc en fait, mis à part le facteur de risque familial, on sait qu'il y a des familles où il y a beaucoup plus de cancer du sein. On a même identifié des gènes responsables de cette prédisposition. On sait également que l'alcool, le tabac, le surpoids sont des facteurs de risque. Mais pour la majorité des patientes, on n'aura pas un seul élément qui va expliquer le cancer.
Oui, c'est une maladie multifactorielle.
Multifactorielle et un peu parfois, entre guillemets, le hasard. Et ce qui en fait une maladie finalement assez fréquente.
Et l'âge aussi, d'où le remboursement par la sécurité.
Et là, la majorité des patientes sont diagnostiquées après la ménopause, l'âge médian, je crois que c'est autour de 63 ans. Par contre, on a des très jeunes patientes avec des cancers du sein. Dès la vingtaine, on a, de façon très rare, des patients atteints de ce cancer. Et puis, ça peut aller jusqu'à des découvertes très tardives dans l'âge. Il y a différents types de cancers. Alors, d'une part, par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure, la taille, le fait qu'on trouve des cellules tumorales dans les ganglions ou en dehors des ganglions dans d'autres organes. Et puis, on a différents types de cancers. On a ce qu'on appelle les cancers in situ. C'est des cancers qui, finalement, n'ont pas la capacité de sortir de leur organe. Et finalement, le traitement va être assez simple. Ça va être les chirurgiens, voire de la radiothérapie. Et ça sera tout. Et c'est des cancers plutôt de bon pronostic. Et puis, dans les cancers infiltrants, on les appelle infiltrants parce qu'ils ont la capacité d'aller infiltrer les tissus et notamment de rentrer dans les vaisseaux circulants et de sortir de l'organe. Là, on retrouve trois grands types de cancers du sein. Certains qu'on appelle donc hormonodépendants, c'est-à-dire que les cellules tumorales utilisent les propres hormones féminines pour se multiplier. C'est les plus fréquents et c'est ceux de meilleur pronostic. Ça représente à peu près 70% des cancers du sein détectés. Pardon. On a les cancers du sein qu'on appelle HER2, voire HER2 amplifié. Donc c'est une entité qui représente à peu près 10-15% des patientes. Et c'est des cancers du sein qui étaient de très très mauvais pronostic avant les années 2000. Et depuis qu'on a des thérapies ciblées qui ciblent cette molécule HER2, qui est une sorte de récepteur, on a eu un progrès assez important. Donc c'est assez étonnant d'expliquer aux patientes, vous avez une tumeur extrêmement agressive, mais par contre elle est de très bons pronostics parce qu'on a les bons outils. Et puis enfin, on a les cancers triple négatifs, on en entend beaucoup parler, donc c'est des cancers du sein surtout qui atteignent la femme jeune, en général c'est avant la cinquantaine, et ça peut atteindre des patientes très jeunes, notamment avec des facteurs génétiques, c'est-à-dire des histoires familiales de cancer du sein. Et c'est des cancers qu'on appelle triple négatifs parce qu'ils n'ont ni les récepteurs hormonaux, ni la molécule HER2, et donc finalement, jusqu'à maintenant, on n'avait pas tellement de marqueurs pour aller attaquer la tumeur. Et donc, les seuls traitements, c'était principalement la chimiothérapie. Depuis quelques années, on a des nouveaux traitements pour ces cancers du sein triple négatif et les choses avancent avec des progrès notables depuis les 2-3 dernières années.
On peut un peu repréciser ensemble, Carmen Garrido, en effet, ces cancers triple négatifs, c'est la forme la moins fréquente en effet, c'est 10 à 15% des cancers du sein, une forme particulièrement agressive. Vous l'avez évoqué, mais pour compléter, Carmen Garrido, pourquoi pose-t-il plus de problèmes que les autres types de cancers du sein et quel, justement, comment faire face à ce type-là?
Bah, malheureusement, et effectivement, c'est ce que vient de dire Delphine, c'est qu'il n'y a pas aucun vraiment marqueur pour pouvoir faire une thérapie ciblée. Mais les choses, comme elle a bien dit, sont en train d'évoluer petit à petit. Il y a de nouvelles choses. Il y a peut-être l'immunothérapie, qu'on dirait qu'est en train de donner aussi pas mal de résultats pas trop mauvais en ce moment. Mais bon, par le moment, c'est le cancer de sein qui pose le plus de problèmes. Et ça, c'est pourquoi c'est si important avoir un biomarqueur de réponse au traitement, qu'on puisse l'analyser dans le sang avec un simple échantillon de sang, précisément pour pouvoir tester de nouvelles thérapies et voir quels sont les patients qui répondent. C'est dans le cancer qui est le plus important des gens avoir effectivement une méthode de suivi des patients qui marche, parce qu'il n'y a pas de thérapie ciblée malheureusement.
Alors quels sont les, est-ce qu'on connaît les mécanismes à l'origine des cancers du sein pour ces trois types, pour ces différents types qu'on vient de décrire, Delphine Loira?
Alors les mécanismes à l'origine, c'est des anomalies génétiques, c'est des cassures dans l'ADN des cellules tumorales. Normalement, notre ADN a toute une machinerie pour se réparer et de temps en temps, la réparation ne se fait pas bien ou en tout cas les cellules tumorales ne sont pas éliminées de l'organisme. On sait notamment chez les patientes qui sont porteuses de mutations génétiques BRCA1 ou BRCA2. Donc, c'est des mutations héritées de leur mère ou de leur père. Le cancer du sein peut être héréditaire via son père, malgré ce qu'on entend souvent dans le langage courant, ça vient que de la mère. Donc, l'héritage est partagé entre le père et la mère. Et ces patientes qui ont des mutations, c'est des mutations assez rares dans la population générale, leur machinerie de réparation de l'ADN est défaillante. Et donc, quand il y aura des mutations, les mutations vont s'accumuler et elles ont plus de risques de développer un cancer au cours de leur vie, cancer du sein et de l'ovaire.
Ces cancers, ces prédispositions familiales génétiques, ça représente à peu près 20 et 30% des cancers du sein, il me semble.
Alors, oui et non, oui et non. Ça revient... Alors 20 à 30% quand on regarde l'arbre génétique, en effet, quand on a plusieurs tantes, plusieurs grand-mères ou arrière-grand-mères ou mères touchées par un cancer du sein, notre risque est plus important d'avoir un cancer du sein. Mais par contre, quand on parle souvent de cancer génétique, c'est qu'on a identifié un gène altéré et là, ça représente probablement moins de 10% des cancers. Chez les triple négatifs, c'est entre 15 et 20% des cancers du sein triple négatif où on trouve une mutation. Mais pour les autres, on ne trouve pas de mutation.
Alors Carmen Carido, comment on passe d'une tumeur in situ et donc relativement bénigne à une étape invasive? Quels sont les mécanismes cellulaires responsables de l'aggravation des cancers du sein?
Oui, les mécanismes seront un petit peu compliqués à expliquer au niveau moléculaire, mais disons que la cellule sort de où elle est, rentre dans les lymphes, dans le sang, et c'est acquiert des capacités de migrer, de migration, et donc devient ce qu'on appelle une cellule à potentiel métastatique, et donc après, il peut s'installer où il veut. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir une méthode comme celle que nous on propose, et parce qu'on pourrait suivre une femme qui a eu un cancer primaire, et les suivre très peu, les mêmes généralistes pourraient les faire, un petit test sanguin très vite à faire, peut-être avec des bandelettes avec le temps, et qu'elle pourrait être suivie de près, puisque c'est là que c'est intéressant, avoir un test qui peut te dire précocement s'il y a une cellule circulante ou pas, s'il y a quelque chose, s'il y a une métastase précoce ou pas. Vous voyez, il faut différencier les dépistages qu'on fait précoce dans toutes les femmes, des dépistages d'une femme, une fois qu'il y a eu un cancer primaire, pour voir s'il développe une métastase. Et c'est là que je pense qu'on aura très vite à quelque chose. Moi, je m'imagine un test un peu comme on a pour les grossesses, vous savez, pour détecter les syndromes de Down, qu'à deuxième mois, on fait une prise de sang et on voit s'il y a un facteur de risque ou pas. Et c'est seulement cette femme qui, après, on aura une amniocentèse. Ici, ce sera pareil, peut-être, avec le temps. Qu'une femme qui a eu un cancer primaire, on les suit avec cette méthode, avec l'analyse de sang. Et juste quand cette petite vésicule sont augmentées, que c'est un facteur de risque, cette femme aura un scanner. Vous voyez, pour bien séparer ça, et voilà.
Delphine Loirin, pour compléter justement sur les mécanismes, sur est-ce qu'on comprend bien la dissémination des cellules cancéreuses du sein?
C'est ce qu'on a expliqué, donc cette capacité finalement de sortir d'un organe. Normalement, une cellule est extrêmement spécialisée et finalement, elle peut se développer que dans l'organe dont elle est à l'origine. Et là, donc, elles vont être capables de se détacher déjà, ce qui est un effort énorme pour une cellule de se détacher de son propre tissu, d'aller dans un vaisseau, puis après être capable de sortir d'un vaisseau. C'est très compliqué pour une cellule de sortir du vaisseau et d'arriver à s'implanter dans un autre organe. Elle n'a pas du tout été programmée pour. Dans le cancer du sein, on retrouve souvent des cellules tumorales quand il y a des métastases au niveau de l'os ou au niveau du foie, des poumons. Il faut être qu'elle soit capable de se développer dans ces organes, notamment en créant des nouveaux vaisseaux. C'est la néovascularisation. Et pour rebondir sur ce qu'explique ma collègue, on est en train de développer finalement des moyens de détecter peut-être plus tôt des rechutes de cancer, notamment avec donc des vésicules. On a également des essais cliniques où on est capable maintenant de détecter de l'ADN tumoral circulant, c'est-à-dire qu'on identifie l'ADN qui circule dans notre corps, qui n'est celui que de la cellule tumorale et pas de nos autres cellules, parce qu'on est capable de connaître les mutations génétiques propres à la tumeur. Et c'est des mutations qui sont propres à la tumeur d'un patient. Après, en pratique courante, l'important, c'est de suivre bien ses patients. C'est d'où l'importance de la surveillance après un traitement. L'importance aussi de la prise des traitements complémentaires. Une partie des traitements du cancer du sein, c'est de l'hormonothérapie. C'est des traitements qu'on va donner pendant 5 ans, voire plus, tous les jours aux patients. Et là, c'est vraiment important de sensibiliser les patientes à la fois à la bonne prise de leur traitement, sur la durée, ce qui est pas facile, et puis de bien suivre le programme de surveillance qu'on va mettre en place pour qu'elles voient régulièrement un médecin pour justement qu'il détecte des signes qui pourraient
être un signe de rechute de la maladie.
On a évoqué ensemble des facteurs de risque tels que l'âge, des prédispositions familiales et génétiques. Carmen Garrido, l'histoire hormonale d'une patiente peut aussi être un facteur de risque.
Oui, oui, effectivement, si, si. Et d'ailleurs, sont dans des moments où on a un bouleversement hormonal qu'il y a les pics de que ça peut arriver, par exemple, quand on a la ménopause, même après un accouchement, ça peut arriver aussi quand on se fait des traitements pour avoir un bébé. Et tout ce type de, non, les hormones, c'est très important puisque ça va provoquer une prolifération excessive dans ces cellules.
Delphine Noira.
Oui, je réagis un peu à chaud pour rassurer les auditrices. Les traitements hormonaux pour avoir un enfant, la stimulation ovarienne n'est pas un risque de cancer du sein. Donc, faut rassurer les jeunes patientes. C'est souvent une question posée. Par contre, en effet, comme la plupart des cancers sont hormonodépendants, tout ce qui va prolonger notamment la production d'oestrogènes va être un facteur de risque. C'est-à-dire qu'on sait que les patientes qui ont allaité beaucoup dans leur vie, enfin les femmes, ont moins de risques de cancer du sein, et les femmes qui ont eu la vie la plus courte en termes d'imprégnation aux oestrogènes va être courte. Par contre, les traitements hormonaux qu'on donnait avant pour lutter contre les phénomènes de la ménopause, là par contre, on sait clairement qu'au-delà de 5 ans, ça augmente le risque d'avoir un cancer du sein. Donc maintenant, ces traitements sont limités à 5 ans pour traiter les femmes ménopausées qui ont des symptômes de ménopause un peu difficiles.
Un mot également, on peut rappeler que le cancer du sein existe aussi chez l'homme. C'est très très rare, ça ne représente qu'1% de tous les cancers du sein répertoriés chaque année. Est-ce que ce sont des mécanismes communs?
Alors, c'est des mécanismes communs parce que l'homme a une glande mammaire, même s'il l'ignore. On retrouve chez les hommes qui ont des cancers du sein, des hommes qui ont des mutations génétiques. C'est souvent des familles où il y a eu beaucoup de cancers du sein. Et on retrouve principalement des cancers hormonodépendants et très peu des deux autres sous-types. Le problème chez l'homme, c'est que la plupart du temps, l'homme ne pense pas à en parler à son médecin parce qu'il pense pas qu'il a une glande mammaire, il ne fait pas partie du tout du dépistage, et je pense qu'il n'y a aucun généraliste qui fait une palpation mammaire à ses patients. Et donc en fait, souvent, on les détecte à un stade avancé. Les traitements sont assez identiques au traitement de la femme, ce qui fait assez sourire nos patients hommes, c'est qu'on leur explique qu'on les considère comme une femme non ménopausée pour leur traitement. Et le gros souci, et là c'est le médecin de recherche clinique qui parle, c'est que la population des garçons atteints d'un cancer du sein sont exclus des essais cliniques. Et maintenant, il y a une volonté d'inclure ces patients qui sont très rares, mais quand même de les inclure dans les essais cliniques pour avoir des données chez l'homme.
Ces essais cliniques, on en parle dans quelques instants après cette pause musicale.
Yeah. La sauterelle, la sirène en mal d'amour, le danseur dans la flamme, ou le caton.
Impossible de ne pas penser à Marcia Baïla de Rita Mitsouko lorsque l'on parle de cancer du sein. Et on en parle sur France Culture à 16h35 avec Delphine Loira, médecin spécialiste en oncologie à l'Institut Curie, le premier centre européen de prise en charge du cancer du sein, et avec Carmen Garrido, directrice de recherche de classe exceptionnelle à la tête d'une équipe multidisciplinaire du centre INSERM, lipides, nutrition, cancer à Dijon et au centre Georges-François Leclerc. En première partie d'émission, nous avons fait le portrait robot de ce crabe, nous avons rappelé l'importance du dépistage précoce et les différentes formes de cancer du sein. Pour le reportage du jour, nous retrouvons à nouveau Antoine Beauchamp. Bonjour à nouveau.
Bonjour Nathalie.
Alors pour bien comprendre ce qu'est le cancer du sein, il faut aussi écouter le point de vue des patientes. C'est ce que vous nous proposez Antoine avec un témoignage et une rencontre.
Oui, Corinne a 49 ans. Il y a 6 ans, elle apprenait qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Elle est aujourd'hui en rémission et elle nous explique quel a été son parcours de soins ainsi que la façon dont sa vie a été impactée par la maladie, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. Elle nous raconte aussi l'importance qu'a eu le fait de témoigner pour en finir avec le tabou lié à la maladie.
Je l'ai découvert à 43 ans et en fait je l'ai découvert moi-même, c'est-à-dire que je voyais qu'il y avait quelque chose de bizarre au niveau de mon sein et donc du coup j'ai pris rendez-vous assez rapidement chez ma gynécologue.
Qu'est-ce que vous connaissiez de cette maladie avant ? Est-ce que c'était une maladie que vous regardiez de loin ? Est-ce que vous faisiez attention à ça ou pas ?
Je faisais attention parce qu'en fait, il y a des historiques familiaux qui font qu'il y a déjà eu des cancers du sein. Et donc, du coup, j'étais suivie particulièrement sur ce sujet. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai été plus attentive, je suppose, que n'importe qui.
Alors, à partir de ce moment où vous avez découvert que vous aviez un cancer du sein, quel protocole s'est mis en place à l'Institut Curie ? Comment vous avez été soignée et suivant quel type de soins ?
Alors en fait, il était déjà très avancé, donc du coup, on a commencé par les chimiothérapies pour le réduire. Donc j'ai fait plusieurs séances. Ensuite, on a fait l'ablation du sein et on a refait une opération par la suite pour enlever la chaîne en ganglionnaire, sauf erreur de ma part. Et derrière, il y a eu des radiothérapies. Puis je suis passée en protocole en test en aveugle pour éviter les métastases. Et puis, quand tout a été terminé, j'ai fait une reconstruction du sein.
Alors, vous avez participé, du coup, à une étude clinique à l'Institut Curie. Bon, après tout, on pourrait se dire, bon, j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai d'abord à prendre soin de moi. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, non, je vais participer à cet essai clinique-là ?
Alors, en fait, je ne suis rien dit du tout. C'est mon oncologue qui m'a proposé de participer à cet essai clinique. J'avais tous les soins organisés, etc., etc. Donc j'étais très dans l'action et j'ai pas du tout réfléchi une seconde qu'en fait je pouvais avoir un risque non de récidive, mais de métastase. Et quand j'ai réalisé que le vrai risque était sur les métastases, j'ai décidé de tester pour avoir une chance supplémentaire finalement de ne pas avoir cette problématique.
Comment est-ce que vous vous êtes renseigné sur cette maladie ? Est-ce que c'est quelque chose ? Est-ce que c'était une maladie que vous connaissiez bien avant ? Vous avez parlé de cas familiaux, mais voilà, est-ce que c'est le fait d'avoir un cancer du sein vous a encouragé à vous informer, à lire plus, à comprendre même la biologie de cette maladie ?
Quand on est malade, il y a deux manières de faire. Moi, j'ai préféré ne rien regarder sur Internet, ne absolument pas me renseigner, parce qu'en fait, on a énormément d'informations qui sont des informations très difficiles, négatives, angoissantes, et puis qui amènent aussi plein de réflexions sur les effets secondaires. Donc, quand vous regardez sur Internet tel type de chimio ou n'importe quoi, forcément, il y a des effets secondaires. Et moi, le problème, c'est que si je vois un effet secondaire, il est très probable que je vais l'avoir. Donc, je préfère absolument ne pas connaître, même sur les médicaments que je prends encore, les effets secondaires, parce que ça me permet d'avoir une chance de ne pas en avoir du tout.
Alors comment du coup cette maladie-là, ce traitement-là a impacté votre vie au moment où vous le suiviez ? Est-ce que vous avez senti une réelle différence dans votre quotidien ou bien est-ce que vous avez fait en sorte justement de maintenir un quotidien soutenu, avec un rythme soutenu ? Expliquez-moi.
Forcément, tout le quotidien change. En fait, moi, j'avais un travail assez prenant. avec des équipes à gérer. Et donc, il a fallu déjà que je prenne conscience que mon agenda allait être bouleversé par cet événement et que j'allais être obligée de fonctionner de manière complètement différente. J'ai eu la chance de pouvoir en discuter avec mon entreprise et puis avec mon oncologue pour pouvoir poursuivre en fait mon activité professionnelle à temps partiel, évidemment, et puis avec des aménagements qui soient cohérents avec les soins que j'étais obligée de suivre. Et puis, heureusement, je dirais que tout le monde y a mis du sien pour que je me sente le mieux possible par rapport à cette situation compliquée.
À partir de combien de temps vous avez appris que vous étiez en rémission? Après combien de temps de traitement et quelle a été votre réaction à ce moment-là?
Pour moi, ça a été assez rapide puisque même si j'ai entamé le protocole en test médicamenteux contre les métastases potentielles, j'étais déjà considérée comme en rémission. Donc en fait, j'ai su que j'avais un cancer fin mars. J'ai terminé tous mes gros, on va dire, soins fin décembre, début janvier. Et ensuite, j'ai entamé le protocole pendant 18 mois, mais j'étais déjà fin décembre, début janvier en rémission.
Quand on parle de cancer et puis du cancer du sein aussi, en général, c'est encore un peu des maladies taboues, on n'ose pas trop en parler. Est-ce que vous, c'est quelque chose avec une chose avec laquelle vous avez été à l'aise, vous avez pu en parler autour de vous sans avoir honte, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les témoignages des personnes atteintes d'un cancer?
Alors le cancer, c'est quelque chose en effet de difficile et de tabou, dans le sens où même dans l'environnement du travail, avoir un cancer, ça pose souci parfois pour son évolution de carrière, par rapport au regard des autres, c'est assez compliqué. Donc oui, il y a ce côté regard des autres et handicap qui est pas toujours facile à prendre en considération, mais je pense que le plus important, c'est de se centrer sur soi-même, et puis tant pis pour les autres et leur regard. Je pense que c'est la meilleure façon d'évoluer. Et puis, il ne faut pas en avoir honte, au contraire. De toute façon, il y en a vraiment de plus en plus, malheureusement. Et donc, c'est quelque chose qui, malheureusement, devient presque courant. Donc, en parler autour de soi pour trouver de bonnes solutions. Enfin, moi, je sais que si je n'en avais pas parlé à mon RH de manière franche, à mes managers de manière franche, je n'aurais pas trouvé les solutions qui me convenaient le mieux. Donc, il faut quand même passer cette étape de honte, parce qu'en effet, c'est une culpabilité, finalement, ce qui paraît bizarre. Et donc, il faut avoir le courage de l'affronter parce que c'est ce qui permet de trouver les meilleures solutions pour soi.
Merci pour ce témoignage. Carmen Garrido, une réaction aux mots que l'on vient d'entendre?
Oui, je sais pas quoi dire. Peut-être dire, je sais pas, que tous les essais cliniques qu'il y a maintenant, il y a beaucoup de fois qui ne tiennent pas en compte la qualité de vie des patientes, que des fois, je tiens à dire, un essai clinique qu'il y a maintenant, qui est encore ouvert, qui s'appelle Canto, que précisément, l'objectif, c'est améliorer la qualité de vie des femmes. Et il y a des chiffres, c'est une étude qui, il y a 26 centres de lutte contre le cancer en France qui participent. Il a été promu par Unicancer. Il y a déjà plus de 10 000 femmes qui participent. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'une femme sur quatre n'intègre pas le travail après avoir été soignée d'un cancer, qui se sent incapable. Et 25 à 50% des femmes ont des séquelles, soit physiques ou psychologiques. Donc, je pense que de plus en plus, il va falloir tenir compte dans la thérapie et tout, à les effets secondaires, à la toxicité qui va avec, à arrêter de parler juste de la survie du patient, mais parler plus de... Et je crois que les nouvelles techniques de thérapie vont vers là, avec une vectorisation, avec un ciblage meilleur des molécules. Et voilà, juste dire ce mot-là.
Delphine Loire.
Oui, tout à fait. Alors d'abord, témoignage particulièrement, je trouve, poignant et qui reflète la réalité de notre quotidien de médecin et des relations qu'on a avec les patientes. Un courage des patientes assez incroyable à tout mener de front. Et en effet, l'après-cancer, c'est quelque chose auquel il faut s'attabler. On a beaucoup d'efforts sur les traitements, mais comment réinsérer les patientes sur le plan familial, social, dans le monde du travail. Et ça, c'est encore assez compliqué. Il y a en effet ce tabou du cancer. Les patientes qui me disent « je peux pas aller à la piscine parce que ça se voit que j'ai un cancer ou que je suis en traitement ». Pourquoi ? Rien ne vous interdit d'y aller. Et il y a encore beaucoup de choses. Alors, on s'attelle beaucoup à la pré-cancer avec des suivis en psycho-oncologie, la réadaptation notamment par le sport, l'importance du sport dans la guérison. On sait que les patientes qui vont avoir plus d'activité physique et qui vont diminuer leur surpoids auront moins de risques de rechute. Et puis tout ce qu'on peut mettre en place sur le plan social et aussi au niveau des assurances. Pas oublier que les femmes qui ont déjà eu un cancer dans leur vie, il est quasiment impossible de contracter un prêt immobilier au cours de leur vie.
Alors pour parler de l'arsenal thérapeutique du cancer du sein, vous Delphine Noira, vous êtes clinicienne. Donc, comment fait-on pour élaborer une carte d'identité de la tumeur lorsqu'une patiente arrive, pour adapter la prise en charge au maximum ou tout simplement comment déterminer le type de traitement le plus pertinent pour la patiente?
Alors, la carte d'identité du cancer et de la maladie, c'est d'une part la biopsie, de faire une analyse biologique de la tumeur, les marqueurs qu'elle exprime, sa capacité de prolifération, de multiplication, ce qui va nous donner son agressivité. On a parlé tout à l'heure des tests génomiques qui nous permettent de savoir, avec une analyse très fine de l'expression des gènes de la tumeur, si elle est très agressive et son risque de rechute est important ou un peu moins important. Et puis, on va avoir la cartographie avec une image fine. On utilise de plus en plus les PET scanners pour les cancers du sein agressif pour bien délimiter les zones atteintes ou pas. Et à partir de là, on va suivre les recommandations internationales. Il faut savoir que finalement, on fait quasiment tous les mêmes traitements, qu'on habite à New York, Paris ou Tokyo. On a les mêmes armes thérapeutiques. Et donc, on va proposer un protocole de soins aux patients qui va s'organiser pour les cancers du localisé autour de la chirurgie, la radiothérapie, de la chimiothérapie, des thérapies ciblées et tout ça pour à la fois justement proposer le traitement le plus efficace mais essayer de réduire le nombre de patientes qui vont avoir un traitement qui n'est pas forcément obligatoire. On sait maintenant qu'on n'est pas obligé de faire de la chimiothérapie à toutes les patientes et par exemple l'hormonothérapie, on sait que certaines patientes ont un vrai bénéfice d'avoir une durée de traitement au-delà de 5 ans jusqu'à au moins 7 ans alors que d'autres n'ont pas forcément cette nécessité de prolongation des traitements.
La chirurgie en revanche, ça reste l'étape incontournable ?
En effet, pour l'instant, il n'a pas encore été prouvé qu'on pouvait guérir d'un cancer du sein sans chirurgie, même s'il y a des approches en cours d'évaluation.
Oui, c'est sûr. En plus, c'est un des premiers traitements dans l'Antiquité, c'était déjà à la base de chirurgie, sans anesthésie. Alors, quand on parle, vous dites la chimiothérapie, c'est pas forcément nécessaire. Un mot sur ces avancées-là, parce que quand on dit chimiothérapie, on a l'image d'une thérapie qui fait beaucoup de dégâts, même sur des cellules saines avoisinantes.
Alors ça fait beaucoup de dégâts, mais il faut quand même savoir que ça fait plus de dégâts dans la cellule tumorale que dans les cellules saines. Et finalement, parce que la chimiothérapie, ça ne fonctionne finalement que sur des cellules qui se multiplient vite. Donc finalement, nos cellules ne se multiplient pas si vite que ça, nos cellules de notre organisme. Donc les toxicités, ça sera principalement sur des cellules à division rapide ou sur certaines cellules suivant les molécules. On essaie justement, notamment à travers l'étude Conto dont a parlé ma collègue, d'identifier un peu les séquelles à court terme et à long terme liées au traitement, notamment sur la fertilité, sur des toxicités, notamment ce qu'on appelle la neuropathie périphérique, des chimios qui perturbent le fonctionnement des petits nerfs. Et tout ça, on essaye de mieux connaître les choses afin de réduire cette toxicité et améliorer la qualité de vie des patients pendant le traitement, mais surtout au-delà du traitement.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
h 48 sur France Culture, nous parlons du cancer du sein avec Carmen Garrido et Delphine Loira. Carmen Garrido, on a l'impression que des progrès thérapeutiques sont faits tous les ans dans ce domaine, avec de nouvelles molécules thérapeutiques qui arrivent chaque année. Selon vous, quels sont les progrès les plus notables en matière de traitement?
Alors, moi je dirais que pour les cancers du sein, les grands avancées étaient précisément maintenant qu'on parle de toxicité, c'est avoir ce qu'on appelle les conjugués anticorps médicaments. Alors, par exemple, pour ces cancers qui sont si mauvais, qui ont les récepteurs ER2-2. Alors, cet anticorps, va diriger vers ce récepteur qui n'est que dans les cellules tumorales. Et on le couple, on l'associe à un agent et à une chimiothérapie. Et comme ça, on fait en sorte que tout ça, toutes ces deux molécules, vont directement à les cellules cancéreuses et épargnent les autres cellules normales. Parce que, comme l'a dit Delphine, l'idée de la chimiothérapie qui fonctionne, c'est parce que la capacité de récupération d'une cellule normale va être beaucoup mieux qu'une cellule cancéreuse qui va être plus affectée parce qu'il prolifère plus vite. Mais il est quand même dommagé la cellule normale. Donc si on peut faire en sorte de vectoriser un peu toute cette molécule pour qu'il rentre directement dans les cellules tumorales sans affecter les cellules normales, on évitera beaucoup de toxicité inutile. Et je pense que cette avancée de les conjuguer anticorps-médicaments, ça a été un avancé majeur pour là. Je dirais aussi, peut-être que, je ne sais pas si Delphine peut me confirmer ou non, parce que je travaille dans d'autres types de cancers aussi, mais je crois qu'il y a une étude qui s'appelle Keynote, qui a montré que l'immunothérapie dans les cancers de sang triple négatif aussi, ça marche, et qu'on peut augmenter de 30% la survie sans récidive des patientes. Et voilà, dans ce type de cancer. Dans ce cas-là, pour les gens qui nous occupent, l'immunothérapie, au lieu de cibler la cellule cancéreuse, tu cibles une cellule immunitaire que tu vas l'activer pour que la cellule immunitaire détruit la cellule tumorale. Donc, on ne tue pas la cellule tumorale, mais on active la cellule immunitaire qui, à son tour, tue la cellule tumorale. Et ce sont des avancées assez importantes, je pense. Peut-être que dans le futur, il faudra combiner tout ça à l'intelligence artificielle, que c'est savoir sortir tout ce qu'il y a d'informations dans les réseaux pour avoir accès après à une thérapie plus ciblée, plus personnalisée. Et je pense que c'est vers là qu'on va petit à petit.
Parmi ces enjeux, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Delphine Noira, il y a ce mot qui a été lâché, le mot récidive. Une femme sur cinq rechute. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on explique cette récidive fréquente?
Très souvent, dès les caractéristiques initiaux, on sait qu'elles vont avoir plus de risques de rechuter. Heureusement, toutes ces femmes qui sont de haut risque ne vont pas rechuter. C'est pas parce qu'on a des facteur pronostic de rechute qu'on va rechuter. Heureusement, on en guérit une grande majorité. Et donc, le plus souvent, finalement, on peut un peu identifier les patientes à risque. Et pour revenir, en effet, là, on a vu depuis quelques années un arsenal thérapeutique qui s'élargit, avec notamment la capacité d'aller cibler autre chose que la cellule tumorale, donc l'environnement de la cellule tumorale. La cellule tumorale n'est pas isolée dans le corps, elle est entourée d'autres cellules. On a des programmes de recherche qui ciblent les fibroblastes, notamment il y a un gros programme en cours à l'Institut Curie. On a ciblé l'immunothérapie, et l'immunothérapie arrive dans le cancer du sein. C'était très attendu, on a eu quelques petites désillusions. Et puis maintenant, pour les cancers du sein triple négatif, que ça soit au stade localisé ou au stade métastatique, on peut utiliser ces combinaisons chimiothérapie-immunothérapie. Pour l'instant, immunothérapie seule ne fonctionne pas dans le cancer du sein.
Oui, c'est ça, l'immunothérapie pour réveiller les lymphocytes en dormance. Merci à vous deux de nous avoir éclairés tout au long de cette heure et puis de nous accompagner pour ce mois d'octobre rose. Le 19 octobre aura lieu la journée mondiale contre le cancer du sein. Mais pour l'heure, il est l'heure de retrouver Étienne Klein pour sa chronique « Le pourquoi du comment ».
Le pourquoi du comment de la masse. Aujourd'hui, comment les particules interagissent-elles? Imaginons une théorie physique qui soudain se trouve contredite par des faits, par des mesures, des résultats d'expérience, ou bien par des observations. Faut-il l'abandonner pour autant? Pas forcément, car il se peut que ces implications véritables aient été simplement mal comprises. Lorsque c'est le cas, des remises en cause radicales de ce qui paraissait auparavant clair comme de l'eau de roche deviennent possibles. Une nouvelle perspective surgit alors, qui condamne à mort une portion du vieux monde. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, d'un coup d'un seul, à cause d'équations venues la chahuter depuis une sorte d'arrière-monde, la vieille notion de masse, en apparence si familière, si limpide, si bien comprise, a perdu ses parfums d'évidence. Vous m'accorderez que dans notre esprit, les notions de masse et de matière sont solidaires. Elles sont même intriquées l'une à l'autre. Nous peinons à concevoir une chose matérielle qui serait sans masse, et symétriquement, nous peinons à imaginer une masse qui ne serait pas incarnée en choses matérielles, petites ou grosses. En vertu de cet argument massu, la masse apparaît comme une propriété intrinsèque des objets matériels. Qui dit masse dit matière, et qui dit matière dit masse. Que trouver à redire à tout cela? Au premier abord, rien. Mais à l'examen, beaucoup de choses. Car ce que les physiciens savent désormais, c'est qu'au lieu d'être une propriété primitive des particules, une propriété qu'elles posséderaient de par elles-mêmes, si l'on peut dire, qu'elles posséderaient du seul fait qu'elles sont faites de matière, la masse apparaît comme n'étant qu'une propriété secondaire des particules élémentaires, une propriété indirecte résultant de leur interaction avec le vide qui n'est pas vide. Je suis bien conscient que cette dernière phrase est trop longue et de surcroît inintelligible. Alors je vais tenter de vous l'expliquer pas à pas toute cette semaine en une suite de plusieurs chroniques. Je dois d'abord vous raconter la façon dont sont aujourd'hui comprises les interactions entre particules. Ce que nous dit la physique quantique, c'est qu'une interaction, c'est toujours un troc. Deux particules n'interagissent que si elles s'échangent quelque chose, et ce quelque chose est une particule caractéristique de l'interaction mise en jeu. Autrement dit, une interaction ne s'exerce entre deux particules que par l'échange d'une troisième. Et si vous voulez tout savoir, en termes savants, on appelle la particule échangée le boson de jauge de l'interaction, mais je reconnais que ce n'est pas toujours évident à recaser dans les dîners. Par exemple, lorsque deux électrons se repoussent du fait de la force électrique qui tend à les éloigner l'un de l'autre, il faut imaginer qu'en réalité ils s'échangent des particules qui sont en l'occurrence des grains de lumière, c'est-à-dire des photons. Une métaphore aidera à mieux comprendre ce que je vous raconte là. Imaginons deux barques sur un étang, dont chacun des occupants est démuni de toute espèce d'objet qui pourrait l'aider à diriger son embarcation. Il n'a ni rame ni pagaie. Supposons que les deux barques se dirigent l'une vers l'autre, de telle sorte que la collision paraisse inévitable. Inévitable ? Pas tout à fait. Car si l'un des occupants dispose d'un objet massif, par exemple d'un ballon, et le lance avec vigueur au passager de l'autre barque, qui le lui renverra et ainsi de suite, les deux embarcations s'écarteront peu à peu l'une de l'autre. Par l'entremise d'un médiateur spatial, en l'occurrence le ballon, la succession des lancers créera une force répulsive capable de modifier les trajectoires. En clair, on voit par là que l'échange d'objets entre objets agit sur les trajectoires des objets. Bien qu'approximative, donc critiquable, cette image permet de comprendre une autre chose importante. Puisqu'un ballon très lourd condamne à ne faire que des passes courtes, la portée d'une interaction, c'est-à-dire son rayon d'action, sera d'autant plus faible que la masse de ses particules médiatrices sera plus élevée. Par exemple, dans le cas de l'électromagnétisme, la masse des photons, qui sont les ballons de cette interaction, étant nulle, la portée est infinie. Bon, et alors, me direz-vous ? Et moi, je vous répondrai, très bonne question, alors à demain.
Merci Étienne Klein pour cette chronique. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD, à Antoine Beauchamp, Ève Etienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfranc, Garance Prima Agnolo, Natacha Demoul et Mariam Ibrahim. À la réalisation, François Richet, à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Sur le fil Twitter @sciencecqfd, vous pouvez retrouver toutes les études et sources citées durant cette émission. Cette émission qui se podcast à toute heure sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.